Bienvenue à l'émission qui déclare la grâce souveraine et éternelle de Dieu en Jésus-Christ, l'évangile glorieux du Seigneur Jésus-Christ et son œuvre accomplie à la croix pour les pécheurs que Dieu le Père a ordonné à ce salut. Puisse-t-il nous accorder des oreilles pour entendre les attributs glorieux de Jésus-Christ à travers ce message tiré de sa parole inspirée.
Aujourd'hui, mon texte se trouve dans le livre du prophète Jonas et le chapitre 2. Et j'ai intitulé cette étude « La prière d'un affligé ». Si nous connaissons quelque chose concernant Jonas, il était un prophète que Dieu a suscité au 8e siècle avant la venue du Seigneur Jésus-Christ et il a prophétisé durant le règne d'un roi, Jéroboam, et nous avons mention de Jonas en tant que prophète dans le livre de Deux Rois et le chapitre 14 à partir du verset 25 parlant de Jéroboam. Il était certainement un mauvais roi. C'est écrit dans le verset 24 de 2 Rois 14, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, son père. Il était fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. » Donc, une période où en Israël, un roi à l'autre détournait le peuple de Dieu. Pourtant, nous savons que Dieu est souverain. Il se sert même des hommes pécheurs pour sa gloire. Donc, durant le règne de ce Jéroboam, le deuxième, étant fils du premier, c'est écrit dans le verset 25, il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine. Notez bien, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas le prophète, fils d'Amittai, de Gath et Pher. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvait réduit esclave et homme libre, sans qu'il y eût personne pour venir au secours d'Israël. Donc c'est dans cette période de temps que Dieu a suscité Jonas comme prophète, non seulement vers Israël, mais comme nous lisons dans le livre de Jonas, vers les païens, les Assyriens. Et c'est pourquoi dans Jonas chapitre 1, le verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc Dieu règne souverainement sur le monde entier. Ce n'est pas seulement sur ce pays-ci ou ce pays-là. Donc, tous les pays du monde dépendent de Dieu et trouvent leur succès ou bien même leur défaite de la main de Dieu. Donc, dans ce livre de Jonas qui porte son nom, il nous montre, traversant toute une série d'aventures, comment l'Éternel dirige sa parole. Voyons comment l'Éternel lui a donné l'ordre d'aller porter sa parole à Ninive, appelée-là la grande ville. Et Jonas s'y refuse pour un motif qui n'apparaîtra que plus tard dans le livre, et afin de fuir la face de l'Éternel. Cela nous voyons dans Jonas chapitre 1 et le verset 3. Il s'embarque pour Tarsis, probablement la Tartessos des Grecs, qui existe au sud-ouest du pays de l'Espagne aujourd'hui. Mais Dieu a envoyé une tempête et le sort ayant désigné Jonas comme celui dont la présence est responsable de la catastrophe menaçante, les matelots jettent par-dessus bord le passager indésirable, tel que Jonas. Et là, un énorme poisson, une baleine, survient et engloutit Jonas. Voyons ça dans le premier verset du chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Donc, non seulement Dieu règne sur les nations, mais il est souverain même sur ses créatures, dirigeant ce grand poisson pour engloutir Jonas. Et au bout de 3 jours, ce poisson le rejette vivant sur le rivage. Donc ce n'était pas pour la destruction de Jonas que Dieu a envoyé ce poisson, mais le contraire. C'était pour le préserver vivant et maintenant de le faire continuer sur sa mission. Et dans cela, nous voyons sa souveraineté dans le fait qu'il arrivait exactement au moment qu'il fallait, pourvu par Dieu, pas une minute plus tôt ou plus tard, quels que soient les détournements que Jonas avait pris. C'est toujours comme ça avec le Seigneur. Tout ce qu'il ordonne, il achève. Alors, une fois rejeté vivant sur le rivage, dans Jonas chapitre 2 et verset 11, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc du verset 1, où l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Et le verset 11, l'Éternel parla au poisson. Voilà que c'est le Seigneur qui dirige toute chose, que ce soit l'engloutissement de Jonas ou bien son vomissement sur la terre, c'est Dieu qui l'a ordonné. C'est alors à un second appel que nous voyons dans le chapitre 3 et le verset 1 que l'Éternel a adressé à Jonas. Cette fois, il n'osait plus résister et il se rend donc à Ninive pour y faire entendre son message de destruction. C'était une proclamation de condamnation. Mais en cela, Dieu a agi pour emmener les Ninivites et leur roi à la repentance. Qu'est-ce que la repentance si ce n'est un changement de cœur envers Dieu et envers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ? Quelqu'un peut se demander, mais est-ce que Jonas a prêché Christ? Nous allons voir tantôt que cette histoire de Jonas passant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson est symbolique de la mort de Jésus-Christ et les 3 jours et 3 nuits qu'il a passé au sein de la terre lorsqu'ils l'ont crucifié. Donc en cela, quoique antitype de Christ, nous savons que Jonas a connu l'angoisse comme conséquence de sa désobéissance, mais Christ, lui, a traversé les eaux sombres de la mort à cause de la désobéissance de son peuple qu'il est venu sauver et pour leur salut. Et comme la détresse de Jonas était en fin de compte pour la délivrance de Ninive, ainsi la détresse du Seigneur Jésus-Christ était pour la délivrance de ce peuple que le Père lui a envoyé sur cette terre sauvée. Donc, pour la repentance, oui, c'est des messages qui concernent le Seigneur Jésus-Christ et c'est le fruit de l'Esprit qui œuvre dans le cœur de ses élus pour qu'il y ait ce changement envers Dieu et envers le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les Ninivites et leur roi se repentent si bien que l'Éternel renonce à les punir. C'était toujours son propos de démontrer la miséricorde. Ce n'est pas que Dieu ait un changement de cœur. C'est pourquoi il a envoyé Jonas prêcher afin de les amener à la repentance. Mais c'est clair qu'ils ont cru à ce message de Jonas, parce que dans Jonas chapitre 3 et le verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Telle est l'œuvre de Dieu quand il amène des pécheurs à la repentance. Ils sont humiliés devant lui, reconnaissant leur péché, et ils crient vers lui pour la miséricorde en Jésus-Christ. Ayant vu cette repentance, on pouvait supposer que Jonas devait être dans la joie, mais c'est le contraire. Jonas se montre furieux, ne pouvant prendre son parti de cette miséricorde de Dieu à l'égard de ses païens. C'est écrit dans Jonas chapitre 4 et le verset 1 à 4 que cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, l'Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Et l'Éternel lui répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Cela nous montre que Dieu se sert de ses messagers, peu importe leur attitude. Parce que Jonas avait une attitude dure envers les Ninivites, parce qu'ils étaient des ennemis d'Israël. Et donc, si la repentance dépendait de l'homme, on n'aurait jamais lu ici de la repentance des Ninivites, parce que même l'attitude de Jonas n'était pas correcte en prêchant la parole de Dieu à ces Ninivites, mais Dieu s'est servi quand même de la prédication, c'est toujours de sa parole qui se sert pour la conversion des pécheurs et non pas du messager. Cela est évident. Alors Dieu lui fait comprendre son erreur par le moyen d'un arbuste, peut-être un raisin qui, après une poussée magnifique, se dessèche et meurt. Tel que nous lisons dans Jonas chapitre 4, verset 6, l'Éternel Dieu fit croître un raisin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce raisin. Telle est la nature du cœur qu'on se réjouit dans les bénédictions temporaires de Dieu, mais que nous nous endurcissons contre les bénédictions spirituelles qui sont données par sa grâce, telles que cette repentance accordée aux Ninivites. Mais Dieu encore est souverain, non seulement en ce qui concerne la repentance de ces Ninivites, ennemis d'Israël, mais néanmoins, Dieu, voulant montrer sa compassion et sa miséricorde, sa bonté envers eux, mais aussi souverain en ce qui concerne les cœurs des siens. C'est évident que nous avons besoin de sa grâce de continuellement tourner nos cœurs vers lui, autrement laissés à nous-mêmes, nous serions exactement comme Jonas, en train de nous jouir dans les provisions temporaires de Dieu, mais endurcis en ce qui concerne les âmes des hommes. Qu'est-ce qui est plus important? Les choses temporaires dont Dieu nous donne, ou bien la vie éternelle qui donne dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ? Je dois dire que c'est la vie éternelle, évidemment. Alors, pour un temps, Jonas se délectait de l'ombre de l'arbuste, et puis, d'un coup maintenant, s'apitoie sur cette mort prématurée lorsque Dieu a fait dessécher le ricin. Ne peut-il pas, dès lors, comprendre la grande pitié de l'Éternel pour Ninive, cette ville immense en proie à la mort du paganisme? Pourtant, il a plu à Dieu de faire miséricorde. Dans Jonas chapitre 2, nous avons la prière d'un affligé. C'est la prière de Jonas lorsqu'il était ses 3 jours et 3 nuits au sein de ce poisson. Et plusieurs fois dans le Nouveau Testament, nous avons cela cité par le Seigneur Jésus-Christ en ce qui concerne sa mort et sa résurrection, qui est typifiée ici dans Jonas au sein du ventre de ce poisson, par exemple dans Matthieu chapitre 12 et le verset 38. C'est écrit: alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il répondit: une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se leveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et voici, il y a plus que Jonas ici. Donc c'est pourquoi nous ne pouvons pas lire ce récit sans voir sa correspondance avec la vie, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il faut dire que toute la Bible est une histoire de la rédemption en Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, ça nous est annoncé par prophétie et promesse. Dans le Nouveau Testament, la réalisation. Donc, ayant ces versets qui nous montrent comment il faut lire ce passage, nous revenons pour voir cette prière de Jonas lorsqu'il était au sein du ventre du poisson, et nous pouvons comprendre que le Seigneur Jésus, dans son affliction, pas à cause de son péché, il n'avait pas de péché en lui-même, mais à cause du péché du peuple qu'il est venu sauver. Nous voyons des parallèles dans la prière d'un affligé représenté par le Seigneur Jésus, dont Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 53 et le verset 3, dit du Seigneur Jésus: méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. tel que Jonas, on peut imaginer ici, c'est un châtiment pour sa désobéissance. Mais par contre, comme antitype, le Seigneur Jésus a été frappé, non pas pour une désobéissance qu'il aurait faite, mais à cause d'être chargé maintenant du péché de son peuple. Il était châtié et puni par son Père comme substitut. Mais voyons sa prière, parce que c'est écrit dans Jonas chapitre 2 et le verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Donc, comme type, nous imaginons le Seigneur Jésus lui-même en train d'adresser des paroles semblables à son Père. Et il dit, dans le verset 3, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. » Quand le Seigneur Jésus souffrait à cause du péché de son peuple, il a adressé sa prière dans sa détresse à l'Éternel, et l'Éternel l'a exaucé. Notez bien, du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Christ devait souffrir jusqu'à la mort, mais en tout cela, il continuait à s'adresser à son Père et remettre son sort à son Père, sachant que c'est le Père qui lui a envoyé pour accomplir sa justice à l'égard de ce peuple qu'il est venu sauver. Et comme Jonas dit, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. On peut dire que cela représente les souffrances du Seigneur Jésus-Christ, jeté dans l'abîme, encore à cause des péchés de son peuple. Et les courants d'eau de la mort l'ont environné. Et notez comment c'est écrit, « Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. » Comme pour Jonas, chaque vague et chaque flot qui a passé sur lui était de Dieu. C'est pourquoi il dit « Toutes tes vagues ». Il n'y a rien qui ne bouge dans ce monde si ce n'est Dieu lui-même qui le fait bouger et accomplit sa volonté à travers même les tempêtes et les choses contraires à ce qu'on peut imaginer. C'est Dieu qui agit toujours. Mais surtout en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit la méchanceté des hommes contre sa personne, nous savons en lisant dans Actes chapitre 4 et le verset 27 et 28, où c'est écrit « Contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Donc rien ne s'est passé à notre Seigneur Jésus-Christ, si ce n'est Dieu qui l'a ordonné. Alors Jonas, verset 5, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Christ est le temple de Dieu, et tout ce qu'il a fait dans l'accomplissement du salut était en vue de ce temple. Exactement comme Jonas ici, son espérance était vers le temple, c'était vers les sacrifices, c'était vers les sacrificateurs qui représentaient la vraie adoration de Dieu à l'époque. Et tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait avait en vue ce temple pour accomplir tout ce qui était représenté là. Non seulement il est le souverain sacrificateur lui-même, mais il est aussi le sacrifice, il est l'agneau de Dieu qui devait être immolé. Donc comme tout cela était dans la pensée de Jonas, nous savons que pour le Seigneur Jésus, c'est ce qui préoccupait par l'Esprit de Dieu sa pensée lorsqu'il était sur la terre. Verset 6, « Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. » Je crois bien que c'est fort possible que Jonas lui-même est mort dans le ventre de ce poisson, et c'est le Saint qui l'a ressuscité. Ça ne m'étonnerait pas si tel est le cas, parce qu'il dit « les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie ». Mais c'est pour représenter le Seigneur Jésus-Christ qui a souffert aussi jusqu'à la mort. Sa vie, lui, a été ôtée, pas par les hommes, mais par Dieu lui-même. Christ a dit ça, que personne ne pouvait lui ôter la vie, mais il donnait sa vie de lui-même et il reprenait sa vie. Tel était le commandement qu'il a reçu de son Père. Mais ici, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Voilà une image de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La mort ne pouvait pas le retenir, le tombeau ne pouvait pas le retenir. Une fois ayant accompli la volonté de son Père à l'égard de ce peuple pour qui il a souffert, alors Dieu l'a ressuscité. Et quel était le résultat de sa mort? Et qu'est-ce que sa résurrection représentait? Il suffit de lire dans Romains chapitre 4 et le verset 25. Nous lisons concernant le Seigneur Jésus, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification, à cause de notre justification. Donc, étant ressuscité, la justification était déjà complète. C'est pourquoi il devait mourir. Donc, Jonas aussi est typique de cela. Alors, verset 8, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. » Nous savons que la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas simplement physique, mais c'était la souffrance de son âme. Donc, ça représente comment le Seigneur Jésus a dû souffrir, non seulement physiquement du corps, mais dans son âme. Dans Isaïe 53, le verset 11, c'est écrit « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. » Exactement comme Jonas, « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. » Et puis il conclut, « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. » Il n'y a pas de miséricorde pour ceux qui continuent dans leur péché à adorer d'autres dieux que le Seigneur lui-même, le véritable. Mais il dit, « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Donc, même dans cette prière, il y a une distinction entre ceux qui s'attachent à de vaines idoles et ceux à qui Dieu fait grâce. Et telle est l'œuvre de Christ. Il n'est pas venu pour sauver tous les hommes. C'est pas pour tous qu'il a versé son sang. Il y en a que Dieu laisse continuer dans leur sens réprouvé à suivre des vaines idoles. Mais il y en a ceux pour qui le Seigneur Jésus a payé la dette. Et cela est représenté ici dans l'histoire de Jonas. Oh, que Dieu fasse miséricorde envers des pécheurs tels que nous sommes. Nous savons que chacun pour qui le Seigneur Jésus-Christ est venu et donné sa vie, Dieu emmènera à la repentance, exactement comme il a fait avec les Ninivites.
Vous venez d'écouter un message qui vous a été présenté par Ken Wymer, prédicateur de l'Évangile de la grâce de Dieu aux États-Unis. Pour plus d'informations sur le message ou d'autres renseignements, veuillez visiter notre site sur l'internet www.shrevegrace.com. www.ctbclar.org.